Kadhafi, il est 23h à Paris, 21h en temps universel et c'est l'heure de votre journal.
Fabrice Le Grillet.
Et depuis aujourd'hui, les premières images du pape François reposant dans son cercueil ouvert. Il se trouve dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Demain, sa dépouille sera transférée à la basilique Saint-Pierre afin d'être exposée aux fidèles avant les funérailles samedi. Et on en sait un peu plus sur les derniers instants du souverain pontife. Les détails dans un instant. Au moins 26 morts ce mardi dans une attaque visant des touristes dans le Cachemire indien. Bilan qui pourrait encore s'alourdir. Le récit des faits dans ce journal. La guerre en Ukraine au cœur d'une nouvelle réunion demain. À Londres, demain matin, l'Ukraine qui se dit prête à discuter directement avec Moscou, sous conditions. Et puis, conséquence des coupes budgétaires américaines, les comptes de l'Organisation mondiale de la santé sont dans le rouge. La dépouille du pape François sera exposée au public dans la basilique Saint-Pierre ce mercredi matin, avant des funérailles qui seront organisées samedi en présence d'un très grand nombre de dirigeants étrangers. Le souverain pontife décédé lundi à l'aube d'un arrêt cardiaque après une ultime apparition publique la veille pour la bénédiction pascale. Et l'on en sait un peu plus sur les derniers instants du pape. Détail communiqué ce mardi par l'agence de presse du Vatican. Sur place, les précisions de notre envoyé spécial Daniel Vallot.
Les derniers mots du pape ont été pour son infirmier Massimiliano Strapetti. « Merci de m'avoir fait retourner sur la place », lui a dit François après son ultime apparition publique ce dimanche, lorsqu'il a effectué un bain de foule surprise devant la basilique Saint-Pierre. Avant de se lancer, il avait demandé à son infirmier « Crois-tu que je puisse le faire ?» et avait ensuite parcouru la place durant une quinzaine de minutes. Toujours selon l'agence de presse du Vatican, le pape s'est ensuite reposé dans son appartement et a dîné normalement. Les premiers signes de malaise sont apparus à l'aube à 5h30. Il a pu faire un signe de la main à son infirmier avant de tomber dans le coma puis de décéder d'un arrêt cardiaque. Tout est arrivé très vite et il n'a pas souffert, ont déclaré à Vatican News les personnes présentes à ce moment-là. La dépouille du pape repose depuis lundi soir dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Sur des images transmises par le Vatican, le défunt porte une mitre blanche et une chasuble rouge, tandis que ses mains en serrent un chapelet. Daniel Vallot, Rome, RFI.
Et les funérailles se dérouleront donc samedi matin, place Saint-Pierre. On y attend évidemment des centaines de milliers de fidèles, ainsi que de nombreux dirigeants, Donald Trump, le président argentin Javier Milei, Emmanuel Macron, mais aussi le roi et la reine d'Espagne, ou encore le prince William, qui représentera le roi Charles III. Vladimir Poutine, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne sera pas présent. L'Ukraine se dit prête à discuter directement avec Moscou pour mettre fin à l'invasion russe, mais seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, déclaration de Volodymyr Zelensky ce soir. Annonce faite alors qu'une nouvelle rencontre entre Américains, Ukrainiens et Européens est programmée à Londres demain en vue d'obtenir une trêve. Hier, Vladimir Poutine avait évoqué une possible reprise de pourparlers directs avec Kiev. Les dernières discussions directes entre représentants russes et ukrainiens remontent au printemps 2022. Volodymyr Zelensky qui déclare par ailleurs qu'il voudrait rencontrer Donald Trump samedi au Vatican en marge des obsèques du pape. Vous vous en souvenez sans doute, la dernière entrevue entre les deux hommes en février dernier avait été marquée par une joute verbale. Notez par ailleurs que la Maison-Blanche annonce que Donald Trump se rendra au Qatar et aux Émirats Arabes Unis du 13 au 16 mai prochain. Au moins 26 personnes ont été tuées ce mardi dans une attaque dans le Cachemire indien, attaque qui s'est produite à Pahalgam, une destination touristique populaire à environ 90 km de Srinagar. Le bilan provisoire risque encore de s'alourdir, plusieurs victimes ont été transportées à l'hôpital. Selon les autorités locales, il s'agit de l'une des pires attaques visant des civils depuis des années, les précisions de Yelena Tomic.
Ce sont deux cadres du djihad islamique.
Petite erreur, on va retrouver dans un instant les précisions de Yelena Tomic.
Selon la presse indienne, les assaillants, dont on ignore toujours l'identité, ont ouvert le feu sur des touristes qui visitaient la vallée de Baisaran, à environ 4 km du site touristique de Pahalgam, dénommé la Petite Suisse pour ses paysages époustouflants. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque, qualifiée de terroriste par plusieurs responsables indiens qui parlent d'actes lâches et ignobles contre des civils. Le premier ministre indien Narendra Modi a promis que les responsables seraient traduits en justice. Cette attaque risque de porter un coup sévère au Cachemire que les autorités indiennes s'étaient efforcées de promouvoir comme destination touristique depuis que l'Inde a annulé l'autonomie partielle du Cachemire en 2019 et imposé un contrôle direct du territoire. Environ 3,5 millions de touristes ont visité la région l'an dernier, en majorité des Indiens. Depuis 1989, le Cachemire, à majorité musulmane, est en proie à une insurrection, des rebelles réclamant son indépendance. New Delhi accuse régulièrement le Pakistan de soutenir les combattants, des accusations rejetées par Islamabad qui affirme seulement soutenir l'autodétermination du Cachemire.
Et conséquence de cette attaque qui, je vous le rappelle, a fait au moins 26 morts, le premier ministre indien Narendra Modi a écourté sa visite en Arabie Saoudite entamée aujourd'hui. Deux hauts responsables du djihad islamique palestinien qui a pris part aux attaques du 7 octobre ont été arrêtés en Syrie, on l'a appris aujourd'hui. Les deux hommes sont en détention depuis 5 jours. Leur arrestation, Pierre-Olivier, montre la volonté qu'a le nouveau régime syrien de coopérer avec les Occidentaux.
Ce sont deux cadres du djihad islamique, le chef des opérations en Syrie et le responsable de son comité exécutif. Le djihad islamique demande leur libération tout en s'étonnant de cette arrestation de la part de leurs frères. Car l'organisation islamique, soutenue par l'Iran, a longtemps disposé de centres de commandement en Syrie. Sous Bachar al-Assad, Damas était un allié de Téhéran et un membre clé de son axe de la résistance contre Israël. Mais depuis la chute du dictateur en décembre dernier, le nouveau président syrien a rompu ses liens avec l'Iran et veut avant tout reconstruire un pays dévasté par des années de guerre civile. Pour obtenir de l'aide internationale, Ahmed al-Sharra donne des gages en répondant à plusieurs conditions posées notamment par les États-Unis en échange d'une levée des sanctions contre la Syrie. Condition principale, que les nouvelles autorités excluent les terroristes du sol syrien et luttent contre leurs activités. L'arrestation de deux hauts gradés du djihad islamique s'inscrit donc dans cette logique et positionne la Syrie un peu plus proche des États-Unis, allié indéfectible d'Israël.
Les comptes de l'Organisation mondiale de la santé sont dans le rouge, c'est du moins ce qu'affirme son directeur général, obligeant ainsi l'agence onusienne à réduire ses opérations et à licencier du personnel, en cause notamment les coupes budgétaires américaines. L'OMS qui se prépare en janvier prochain au retrait total des États-Unis, historiquement de loin son plus grand donateur. Et puis la journée de la Terre a lieu tous les ans aux États-Unis, mais cette année les militants du climat veulent lui donner davantage de force. Marches pacifiques, conférences, projections de films, des dizaines d'événements sont organisés à travers le pays pour protester contre les premiers mois du mandat climaticide et anti-environnement de Donald Trump. Pour Jeff Levy-Lyons, co-directeur de l'antenne new-yorkaise du réseau juif d'Action pour le Climat, cette 55e édition veut s'inspirer de la toute première journée de la Terre organisée il y a plus de 50 ans et qui avait accouché d'importantes lois environnementales aux États-Unis.
On essaye de se rattacher à la première journée de la Terre qui a eu lieu en 1970. Elle a rassemblé 22 millions de personnes, ce qui est énorme pour une mobilisation publique. Il y a eu des manifestations, des rassemblements, des conférences ont été organisées, et tout cela s'est déroulé sous une administration républicaine, celle de Richard Nixon, qui était président à l'époque. À la base, vous n'auriez pas lié Nixon et la défense de l'environnement. Mais les gens étaient tellement nombreux à descendre dans la rue qu'il n'a pas eu le choix. C'est ce qui a conduit à l'adoption des lois sur la qualité de l'air et de l'eau peu de temps après. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1970. La composition politique et la division partisane dans ce pays se sont aggravées de manière exponentielle. Mais on a l'impression que si la mobilisation en 1970 a conduit à des changements, alors nous devons protester à nouveau, même si la route est plus difficile aujourd'hui.
Et puis des dizaines d'universités américaines dénoncent l'interférence politique de Donald Trump. Une centaine de signataires en tout, des présidents d'universités, des responsables d'associations. Depuis plusieurs semaines, l'administration américaine s'attaque aux plus prestigieux établissements du pays, dont Harvard, accusé de propager, je cite, « haine et imbécilité ». Donald Trump les accuse d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme pendant les mouvements étudiants contre la guerre à Gaza. Accusation réfutée par les universités. Rien de neuf. Pas grand-chose. Quelques-unes des réactions syndicales après la visite d'Emmanuel Macron à La Réunion. Le chef de l'État qui était sur place pour constater les dégâts après le passage du cyclone Garance en février. Des dégâts estimés à près de 250 millions d'euros, dont 150 millions pour le secteur agricole. Accompagné de la ministre de l'Agriculture, Anne Genevard, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un dispositif d'urgence pour les agriculteurs d'ici à juin. Et puis autre annonce, une hausse de l'aide pour les planteurs de canne à sucre d'environ 1000 euros par hectare. Mais le compte n'y est pas, estiment donc les syndicats agricoles. La Réunion qui fait aussi face à l'épidémie de chikungunya. Près de 120 000 personnes pourraient avoir été contaminées. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé qui accompagnait Emmanuel Macron. Un mot de basket pour finir avec les quarts de finale d'Euroleague. Et ce soir, le Paris Basketball qui se déplaçait à Istanbul face au Fenerbahçe. Paris qui s'est incliné de peu, 83-78 pour ce premier match. Premier club qui a tient 3 victoires validera son ticket pour les demi-finales.